Didier Denax, le titre qu'il donne à cette communication, c'est « Manouchian, un poète armé de futur ».
Missak Manouchian, c'est un nom qui a toujours résonné autour de moi. Donc, je suis d'une génération comme ça. Je suis né en 49. La guerre était tout à fait présente dans les années 50. Elle a traversé ma famille. Et donc, ce nom de Missak Manouchian était un nom extrêmement familier. Il m'a accompagné. J'ai souvent acheté des livres, regardé des documentaires, et j'ai accumulé beaucoup d'éléments comme ça, d'essayer de comprendre qui était ce personnage et tous ceux qui l'entouraient. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'avais publié une bande dessinée qui s'appelait Carton Jaune avec un dessinateur israélien qui s'appelle Asaf Hanouka. Et dedans, je racontais la vie d'un footballeur qui était un footballeur du Red Star dans les années 30. Et un jour, j'étais dans une signature, je signais ce livre-là avec Asaf, et il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui me dit « J'ai lu votre bande dessinée, le modèle que vous avez de votre personnage de footballeur du Red Star, c'est Rino Della Negra ». Et je lui dis « Rino Della Negra, c'est qui ?» Il me dit « C'est un footballeur des années 30, fin des années 30, et qui a été un compagnon de Missak Manouchian et qui figure sur la fiche rouge et qui a été fusillé en février 44 au Mont-Valérien ». Et il m'a amené de la documentation. Et à partir de là, j'ai écrit une très longue nouvelle sur Rino Della Negra. Et cette nouvelle a été imprimée pour la première fois dans un programme pour les 100 ans du Red Star et pour un match qui avait lieu au Stade Boer, à Saint-Ouen, entre le Red Star et l'Arménienne. Et ce match était en hommage, c'était en février 2004, il était en hommage au groupe Manouchian. Et là, j'ai rencontré le frère de Rino Della Negra, j'ai rencontré une femme, Inès Tunsi, d'origine italienne, qui était l'agent de liaison de Rino Della Negra, parce que derrière tous les hommes de l'affiche rouge, il y a des femmes. Il y a autant de femmes que d'hommes dans ce groupe. Donc. Et là, il y avait Inès Tunsi qui m'a raconté toute une série de choses. Et il y avait l'entraîneur du Red Star de l'époque qui s'appelle Foenkinos et qui est le grand-oncle de David Foenkinos. Donc voilà, c'est toutes ces proximités de l'histoire avec les temps présents comme ça qui me disent qu'il y a peut-être des choses à raconter. Et alors que moi, mon personnage de footballeur du Red Star qui part aux Brigades Internationales, je l'avais fait et c'était une sorte de clin d'œil à mon beau-père qui était un antifasciste italien et qui s'est engagé dans la brigade Garibaldi pour aller défendre la République en Espagne. Donc il y avait ça et puis donc ça a ravivé toute une série de questionnements autour des membres des francs-tireurs partisans main d'œuvre immigrée, le groupe spécifiquement de Missak Manouchian. Et quelques années après, il y a eu un débat qui a fait que je me sentais extrêmement mal à l'aise dans ce pays. C'était un débat sur le thème du banquet, mais de manière totalement pervertie, sur le « je » et le « nous », et qu'ils avaient intitulé le débat sur l'identité nationale. Et je savais pas comment répondre, comment me placer dans ce débat. Les engagements politiques me correspondaient pas. Il y avait pas d'espace dans lequel je me sentais à l'aise pour parler. Et je me suis mis à travailler. La réponse que j'ai faite personnellement, ça a été de reprendre un petit peu toute l'histoire du groupe Manouchian et d'essayer de comprendre qui était Missak. Et le message qui nous était envoyé, moi, le message qu'on me donnait sur Missak Manouchian depuis toujours, c'était l'exemple du martyr. C'était quelqu'un qui se sacrifie pour une cause. C'était un message mortifère. Et donc j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière toutes ces choses. J'ai commencé à tourner pour chercher ce qui est essentiel pour moi en tant que romancier, un angle, pour un point de vue pour parler de Missak, en étant extrêmement impressionné par le personnage. Dès le départ, il y avait une chose que je m'interdisais, c'était de faire un petit tiret et de le faire parler. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne pouvais habiter sa parole, comme je l'ai fait sans problème pour Maxime Lisbonne sur la Commune de Paris. Cette distance-là n'existait pas, et il était absolument impossible de prendre sa voix et d'habiter son corps. Et je savais vraiment pas ce qu'il en était. Et une partie de la solution m'est arrivée par une sorte de remise en cause de l'image que j'avais de Missak Manouchian m'est venue par le fait de réécouter Léo Ferré, à la fiche rouge, le poème d'Aragon. Et à un moment, il y a quelque chose qui est venu au devant, comme ça, du texte, c'est 11 ans déjà, 11 ans que cela passe vite, 11 ans. Je l'avais toujours entendu ça comme une sorte de nostalgie du temps passé, comme quelque chose qui appartenait à la jeunesse, à des combats, et puis des gens qui avaient disparu et tout. Et là, pour la première fois, je ne l'ai pas entendu comme quelque chose qui était de l'ordre de cette nostalgie. Je l'ai entendu comme un regret. C'est-à-dire 11 ans, ça fait déjà 11 ans qu'il est parti, 11 ans que vous n'êtes plus là, et qu'avons-nous fait pour que vous restiez présent? Et donc là, il y avait quelque chose qui se passait dans ce texte, qui n'était pas du tout la même chose sous le texte d'Aragon qu'on entend comme ça, comme une scie musicale, comme un tube. Il y avait ça qui était caché. Et j'ai commencé à essayer de comprendre ce qu'était ce poème. Et le poème, qui s'appelle L'affiche rouge, en fin de compte, quand Aragon l'écrit, il s'appelle pas du tout L'affiche rouge, il s'appelle Groupe Manouchian. Et c'est une commande politique du Parti communiste français, directement d'un des dirigeants de l'époque, qui était Jacques Duclos. Et comment ce poème va être commandé? Tout simplement parce que quand on dit 11 ans que cela passe vite, il a été fusillé en 44, donc on est en 55. Et en 55, il y a cette commande est justifiée par le fait que va être inaugurée à Paris, dans le 20e arrondissement de Paris, la première rue qui va s'appeler Groupe Manouchian. Et donc le premier hommage à Manouchian, le premier hommage national visible dans l'espace public, c'est 1955. Et donc le Parti communiste demande à Aragon d'écrire un poème en lui fournissant copie de la dernière lettre écrite par Missak. Et à partir de cette dernière lettre, il va composer ce poème qui a eu plusieurs versions comme ça avant d'arriver à la forme parfaite qu'il a et qu'on a dans les oreilles. Et ce poème va être publié le jour de l'inauguration, au début mars 1955, à la une du journal L'Humanité. Donc je suis allé dans les archives, je l'ai revu, un poème en éditorial. Et ce poème-là, Groupe Manouchian, ce texte-là, d'un seul coup, est publié. Un journal qui, à l'époque, était tiré entre 400 000 et 450 000 exemplaires. Donc un geste poétique comme ça en première page du journal, et ça accompagnait donc l'inauguration de la rue Groupe Manouchian. Et pour la petite histoire, je suis allé voir aussi sur les plans et tout, cette rue était en fin de compte une impasse, qui était l'impasse Fleury. Et donc c'est la seule chose qui avait pu être imposée sûrement à la mairie de Paris à l'époque. Mairie de Paris en 1955, où il n'y avait pas de maire de Paris, c'était le préfet de police qui faisait office de maire de Paris. Donc on était dans une configuration extrêmement, extrêmement politique à l'époque. Et ça m'a donné l'idée d'une partie du point de vue sur le roman. C'est-à-dire que je me suis décidé à partir de ce moment-là, je me suis dit, le meilleur endroit où placer un petit peu la caméra pour raconter Missak Manouchian, c'est ce jour-là, c'est l'inauguration, c'est 1955, qui est un moment charnière. On est en 55 et je vais raconter l'histoire de Manouchian à un moment, 2 ans après la mort du tyran, après la mort de Staline, et 1 an avant la révélation, entre guillemets, des crimes de Staline par un de ses proches, Nikita Khrouchtchev, et 1 an avant la révolution hongroise. Donc, il y a quelque chose qui se passe là, c'est-à-dire la mort du tyran, les révélations, le rideau est déchiré, et ceux qui veulent voir peuvent voir. Et donc le roman va s'articuler de cette manière. On va raconter, mon personnage va être quelqu'un qui va glaner tous les souvenirs des survivants, tout ce qui reste du passage de Manouchian, mais en même temps dans une époque où on est encore saisi par la terreur et saisi par le vertige de la vérité. Et donc tous les personnages vont être dans cet espace-là. Quand j'ai décidé de faire ça, je suis allé tout simplement, comme je le fais toujours, dépouiller la presse. Donc, je suis allé dans les archives, j'ai regardé un petit peu toute l'année 1955, surtout janvier, février, mars, avril 55, pour voir un petit peu l'état d'esprit, ce qui se passait, les enjeux, et ainsi de suite. Et là, il y a deux informations qui arrivent en travaillant sur les journaux qui vont structurer complètement comment le roman. Il y a tout au long de février et mars 1955, la Seine entame une crue qui est pratiquement, qui est pas aussi importante, mais qui est la deuxième dans l'histoire après 1910. Et donc, une grande partie du métro est inondée. L'eau va dans les bas quartiers, l'eau monte dans les ministères. On évacue une partie des réserves du Louvre et ainsi de suite. Donc, la ville est totalement prise par quelque chose qui est totalement irrépressible. Et pour moi, c'était une sorte de métaphore de ce que je vous disais avant, c'est-à-dire la vérité qui arrive, et donc les gens qui se garantissent contre l'arrivée de ça, qu'il est absolument impossible de contingenter. Donc ça, c'est la première information, et je me dis, bon, voilà, tout mon roman, mon personnage, pendant 2 mois, pendant les mois de la crue, avant la décrue, comme ça, il va rencontrer tous les compagnons, tous ceux qui possèdent une part de l'histoire de Manouchian, en même temps que l'eau va envahir et la ville va se protéger contre cette inondation et d'eau et de vérité. La deuxième information que je trouve comme ça, c'est une photo. Alors, c'est une photo assez curieuse, qui représente des sortes de comploteurs, des illuminés qui sont autour d'une table, éclairés par des bougies, qui ont les yeux qui brillent, comme c'est une photo en noir et blanc, très mal imprimée, sans nom de photographe, et qui accompagnait un grand reportage, mais alors le reportage était sur plusieurs semaines, de Jean-Pierre Chabrol. Et Jean-Pierre Chabrol, résistant, écrivain, conteur, qui a écrit sur la Commune de Paris aussi. Et Jean-Pierre Chabrol avait une commande du journal L'Humanité de rencontrer toutes les bandes de jeunes de 55. Il commençait à y avoir les premiers blousons dorés, il y avait toute une série de choses. Et il a fait toute une série comme ça de choses. Et il y avait un photographe qui était avec lui. Et là, c'était un reportage sur les Fauchemann. Et les Fauchemann étaient un groupe de jeunes de Belleville et qui étaient vraiment des comploteurs, sauf que dans la photo, je crois reconnaître les cadrages et puis la manière de travailler de Willy Ronis. Donc, je passe un coup de fil à Willy Ronis, et je viens avec des photocopies de ce que j'avais trouvé sur le journal, et je lui dis, ben, je suis tombé là-dessus, j'ai l'impression que c'est une de tes photos. Il regarde, il me dit, ah oui, c'est quand je travaillais avec Jean-Pierre Chabrol. Donc, je me retrouve avec Willy Ronis qui me donne un élément de 55. Je peux vous lire, j'avais marqué des trucs de lecture, je vais faire ça, page 11. Et je demande à Willy Ronis, alors je vous expliquerai après la photo, je demande à Willy Ronis je commence un livre, je ne sais pas trop comment je vais démarrer ça, est-ce que tu accepterais d'être un de mes personnages et que je démarre en 55 avec un couple qui serait Jean-Pierre Chabrol et toi? Et donc il m'a donné son autorisation. Et j'ai commencé à écrire, donc ça, Willy vint ranger sa moto bécane près de la bordure devant la façade du Floréal. Le froid engourdissait le bout de ses doigts, malgré les gants d'aviateur trouvés dans un surplus américain de la porte Saint-Ouen. Il croisa les bras et glissa ses mains sous ses aisselles, le temps que Louis Dragère, le journaliste avec qui il faisait équipe et qui venait de lui faire signe à travers la vitre embuée, avale son café. Le jeune homme sortit, agrippa les ressorts de la selle pour venir s'asseoir sur le porte-bagages, les jambes écartelées par les sacoches pleines de matériel, frissonnant au contact du métal glacé. Il s'obligea à un nouvel effort pour se pencher vers le casque de cuir qui recouvrait la tête du conducteur. « Salut Willy, je pensais qu'il serait là, mais il y a eu contre-ordre. Ils nous attendent aux Folies, dans le Bas-Belleville, à côté du cinéma. Tu vois où c'est ?» Et en fin de compte, Willy m'explique, il me dit, ben voilà, on faisait toute une enquête sur les bandes comme ça, et on est arrivé à Belleville, et je devais faire des photos, on arrive dans une salle où il y avait une quinzaine de jeunes, et il y avait une lumière jaune comme ça, je commence à faire des photos, je savais que c'était raté, qu'il y aurait aucune photo qui serait publiable. Il dit, par bonheur, on était après-guerre, et souvent il y avait des coupures d'électricité, et là il y a eu une coupure d'électricité, et ils ont tous sorti des bougies, et ils ont mis les bougies comme ça, ils les ont allumées, et d'un seul coup, c'était un éclairage extraordinaire, quoi. Et il y avait une lumière dans les yeux, et il a fait un reportage, et il m'a sorti la planche contact, il m'a sorti tout ça, et à la fin, j'ai dit, mais ces jeunes comploteurs, c'est qui, c'est quoi? Et il me dit, bah, c'était une chorale traditionnelle du quartier Belleville, et tout, et tout. Et donc, on a cette photo, qui est une photo qui a été publiée ensuite, dans tout un tas de reportage. Juste comme ça, comment j'ai terminé le livre, il a été publié en août 2009 et je l'ai offert à Willy Ronis pour son 99e anniversaire. Il l'a lu et puis il nous a quittés en septembre qui a suivi, mais il a pu lire le livre dont il était le personnage qui ouvrait la voie à mon personnage. Alors, j'ai décidé, pour raconter Missak, de choisir un personnage qui est un journaliste du journal L'Humanité. Et donc, il fait équipe avec Willy Ronis, qui est un petit peu inspiré de Chabrol, mais de très 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 loin, et puis après ça disparaît. Et je l'appelle Louis Dragère. Alors, les choix des noms sont toujours importants, surtout avec ce type de personnage. Et tout simplement, Dragère, c'était une imprimerie extrêmement importante de la place parisienne qui avait fait la Bible de Dali. C'était une des meilleures imprimeries très très minutieuses qui faisait des livres d'artistes et tout, donc l'imprimerie Dragère. Et moi, j'ai travaillé comme imprimeur à mes tout débuts dans la petite Dragère, c'est-à-dire une très très grande, une très bonne imprimerie très très minutieuse avec des. On faisait un travail similaire, mais eux, ils étaient plusieurs centaines, nous on était une dizaine à travailler. Et c'était l'imprimerie Hollard, qui était rue Tournefort, dans le quartier Mouffetard. Et quand j'y ai travaillé, la première chose qu'on m'a dite, c'est que c'était la première imprimerie clandestine des éditions de minuit, et que l'imprimeur Hollard, c'est lui qui a travaillé pour Le silence de la mer, et tout, et tout. Et donc, c'était pas innocent d'appeler ce personnage là, comme ça. Il y avait ce réseau de choses qui se faisaient. Et donc mon personnage de journaliste à l'Humanité, c'est quelqu'un d'engagé, de sincère et de naïf. Et comment on lui confie la réalisation d'un dossier sur Missak Manouchian, et les gens qui lui confient le dossier savent à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Et il y a deux objectifs, c'est d'avoir véritablement une série d'articles qui vont accompagner l'inauguration, et c'est aussi d'une certaine manière arriver à savoir ce qu'on peut savoir si on s'intéresse au sujet. Et donc, lui, il est dans une seule dimension de ce qu'on lui confie, mais il va comprendre peu à peu à quoi il sert aussi et comment il est utilisé pour certains secrets que tout le monde ignore et que les gens qui sont les commanditaires dominent parfaitement. Alors, quand je commence à travailler avec tous ces éléments-là, je m'aperçois qu'il me manque l'essentiel, c'est-à-dire que tous les éléments sur Missak Manouchian, j'ai lu bien sûr le livre écrit par Méliné, j'ai lu énormément de choses, mais j'ai rien de nouveau à raconter, donc j'organise un petit peu ce qui se sait déjà, et je suis à deux doigts d'abandonner. Et à ce moment-là, au moment où je suis découragé sur l'écriture de ce livre, je me souviens qu'avec Jocelyne, on était allé quelques temps auparavant dans une exposition sur la résistance arménienne, qui se tenait dans un petit musée qui est au-dessus de Montparnasse, de la gare Montparnasse. C'est le musée Jean Moulin ou du général Leclerc, ça a deux noms et tout. Donc il y a ce musée, qui est un musée très intéressant, qui est ce qu'ils ont construit au-dessus de la gare Montparnasse. Et quand on était allé dans cette exposition, il y avait des documents intéressants. Il y avait des documents sur les filatures du groupe Manouchian par les brigades spéciales. Il y avait tout un tas de choses sur la résistance arménienne à Marseille qui a été extraordinaire. Et il y avait aussi quelque chose. Je suis resté en arrêt devant un document qui n'était pas n'importe quel document. C'était un tableau. Et le tableau était le buste très musculeux d'un homme. Et c'était le buste de Missak Manouchian. Et ce buste de Manouchian, il y avait une signature. Alors le nom du peintre était illisible. Il y avait juste le prénom Cricor et une date. Et la date, c'était 1929. Misak Manouchian, sa célébrité, son renom et tout, c'est sa disparition, 44. Qui pouvait s'intéresser en 1929 au corps de Misak Manouchian au point de faire un tableau de très très bonne facture qui était là? Ça m'a tellement frappé que j'ai demandé d'où venait ce tableau, et j'avais noté sur un calepin que ce tableau était un prêt personnel d'une certaine Katia Giragossian. Donc avec les miracles d'Internet, je me dis, bon, on va suivre la piste du tableau, on va bien voir ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi existe un tableau de Manouchian. Et je fais des recherches, et je tombe, sur une Katia Giragossian, je tombe sur Internet sur un mail envoyé par une Katia Giragossian à France 2, pour se faire embaucher au service sportif pour suivre Roland Garros et le Tour de France. J'écris quand même à cette personne et je reçois rapidement une réponse d'une, je crois que c'est une jeune femme qui me dit oui, je suis, ce tableau m'appartient. Je vous connais de voix parce que je vous ai interviewé au téléphone pour une revue étudiante et tout. Je rencontre Katia Giragossian. On se rencontre plusieurs fois et à la troisième rencontre, elle me dit une chose, elle me dit qu'elle est de la famille de Misak Manouchian. C'est-à-dire que Misak est marié avec Méliné Assadourian, qui devient Méliné Manouchian, et Méliné a une sœur qui s'appelle Armen Assadourian, et Katia est la petite-fille d'Armen. Donc c'est la nièce de Manouchian. Et quelques temps après, au bout de deux ou trois rencontres, elle me dit, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, mais dans la pièce d'à côté, j'ai les archives personnelles de Misak Manouchian, les archives personnelles de Méliné Manouchian, les archives personnelles de ma grand-mère, Armen Assadourian, qui était membre du groupe. Elle dit, c'est un poids historique extrêmement fort, j'ai regardé comme ça, mais j'ai pas lu en détail, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. J'ai peur d'être prisonnière de cette histoire si je mets le nez dedans. Est-ce que vous accepteriez de l'inventorier, de lire et de me dire ce qu'il y a à l'intérieur? Et j'ai commencé à prendre les documents sur toute la famille Manouchian comme ça, et ça a été bouleversant. Et d'un seul coup, l'image du personnage qui nous était légué comme ça était totalement perturbée. Elle devenait différente. Et là, j'ai trouvé, alors, je dois en parler après, mais peu importe, je chinterai. J'ai trouvé toute une série de choses, par exemple, comment j'ai pu élucider l'histoire du tableau. Comment c'est un tableau qui a été fait par un grand peintre arménien qui s'appelle Krikor Belikian, qui a un musée personnel en Suisse, à Fribourg, avec tout l'argent qu'il a gagné, il a pu construire comme ça un endroit où ses œuvres sont rassemblées, et c'était le meilleur ami de Misak Manouchian. Donc, on viendra sur le tableau après. Mais je vais faire une petite lecture pour le début de Misak Manouchian, ce qu'il en est de son existence. C'est-à-dire que Misak Manouchian, c'est... je vais peut-être faire ça comme ça. Misak Manouchian, c'est quelqu'un qui est un rescapé du génocide. Et en 1915, sa famille disparaît. Son père... est un des Arméniens qui va prendre les armes contre les Turcs et qui fera partie d'un groupe de résistance arménien et qui sera exécuté par les Turcs. Ensuite, Misak Manouchian va avoir avec son frère, ils vont être recueillis. Sa mère va mourir dans les marches d'exil qui étaient contingentées par les Turcs, et lui va réussir à survivre avec son frère en étant adopté par une famille kurde. Alors que pour les l'essentiel, les Kurdes, certains Kurdes ont été les alliés de, comment, des Turcs et se sont servis un petit peu du génocide pour mettre tout un tas d'enfants en esclavage. Et Missak Manouchian va être recueilli par cette famille et ensuite recueilli par une institution arménienne qui va réussir à reconstituer une partie du peuple arménien sur le territoire libanais. Et lui, son parcours va faire qu'il va arriver à Djounieh, au-dessus de Beyrouth. Et là, il y a une rencontre qui va décider de sa vie, de ce qu'il va devenir et ce qui nous intéresse. C'est tout simplement qu'il va se retrouver dans une école qui est une école française. Et dans cette école française, il va apprendre la menuiserie. Il va participer à la reconstruction de Beyrouth. Et en même temps, il a un prof de français, il apprend le français, et donc il a un français totalement impeccable. Et ce professeur est quelqu'un qui est totalement habité par la poésie et qui va lui lire la poésie française, qui va lui faire découvrir Hugo, qui va lui faire découvrir Verlaine, Baudelaire, et ainsi de suite. Et d'un seul coup, ce gamin apatride va être habité véritablement par cette poésie et par cette langue. Il est pour toujours comme ça à Beyrouth. Il sait qu'en tant qu'apatride, il ne pourra jamais en bouger. Sauf que en 1925, il a 19 ans. Il y a un type qui invente quelque chose d'essentiel pour lui et qui va recevoir le prix Nobel de la paix pour cette invention. C'est quelqu'un qui s'appelle Nansen, et Nansen va inventer les passeports pour les apatrides. Et Missak Manouchian va avoir droit à un passeport Nansen. Et le passeport Nansen, pour la première fois dans l'histoire du monde, des apatrides peuvent choisir une nouvelle patrie. Et quand on lui pose la question « Où est-ce que tu veux aller ?», il a droit à une seule réponse. Beaucoup d'Arméniens vont partir vers les États-Unis. Lui, il dit « Je veux aller à Paris. Mon avenir, c'est d'être poète à Paris. » Et il va partir, et il va arriver à Marseille. Alors on le suit comme ça, il va travailler dans les chantiers navals, il est menuisier, il travaille dans les chantiers navals vers la Ciotat. Après, bon, c'est le chemin des Arméniens, c'est Valence, c'est Lyon, de Sine et ainsi de suite. Et ensuite, il arrive à Paris, où il va habiter dans le quartier du Jardin des Plantes, où il y a une communauté arménienne extrêmement forte, et il va réussir à se faire embaucher chez Citroën. Il est ouvrier chez Citroën, mais comme sa vie, c'est la poésie, il va suivre les cours de la Sorbonne, en étudiant libre. Il s'inscrit, on a tous les papiers, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, donc il fait tout un travail là, et il va fonder 3 revues de poésie. En travaillant chez Citroën, donc on a ces revues de poésie où il va traduire beaucoup de poètes français, et il va constituer une sorte de groupe intellectuel autour de lui. 1930-1931, la grande crise, et il y a licenciement massif chez Citroën. À l'époque, on a oublié, mais il y a des trains, on n'appelait pas ça des charters, mais des trains qui vont emmener des dizaines de milliers d'Italiens antifascistes qui vont être renvoyés vers l'Italie. Il va y avoir des dizaines de milliers de Polonais qui vont être renvoyés par train. La chance de Missak Manouchian, il est apatride, on peut le renvoyer nulle part. Donc il reste. Donc il va rester à Paris, chômeur. Et c'est l'explication du tableau. Parce qu'à ce moment-là, il devient figurant, il devient modèle. Et il y a dans la rue des Plantes, où il habite, il y a un grand peintre arménien qui s'appelait Zouloumian, qui est beaucoup plus connu, parce que ses tableaux sont dans le monde entier, sous le nom de Karzou. Hein, ça devait être Oscar Zouloumian, donc Karzou, hein, Oscar Zouloumian. Et donc, Missak Manouchian va être modèle pour Karzou. Et puis, il y a un autre peintre à côté, qui est Krikor Beydikian, qui va devenir qu'à l'âge de Missak Manouchian, et qui est un type totalement habité par Dieu, et qui détruit systématiquement toute son œuvre parce qu'il fait injure à ce que Dieu a pu faire sur l'image humaine. Et donc on a quelqu'un comme ça qui va pourtant garder les tableaux qu'il a fait de Missak Manouchian. Puis ensuite, il pensera sûrement qu'il est devenu l'égal de Dieu, puisque à partir de 44-45, il va garder toutes ses toiles et il va avoir un énorme succès aux États-Unis, ce qui explique après assurer l'existence de sa fondation en Suisse actuellement. Et donc là, dans les papiers, je vais trouver toutes les correspondances entre les deux Arméniens et tout. Et puis je trouve aussi des choses, et là il y a des pistes pour essayer d'élucider qui était ce personnage de Manouchian. J'ai trouvé des engagements comme figurant, et figurant au théâtre, peut-être au cinéma, sûrement au cinéma, tout simplement parce qu'à Montreuil, il y avait toute une équipe extrêmement nombreuse de cinéastes de tous les pays de l'Est, russes et tout, qui s'appelaient les studios Albatros. Et c'est là qu'a commencé Buñuel, c'est là qu'a commencé René Clair. Il y a tous les acteurs de l'âge d'or, une partie. Dans Le Chien andalou, l'acteur principal, Batchev, c'est les Russes. Et donc là, on a vraiment énormément de gens, de choses qui se brassent et tout. Et j'en ai pas la preuve, et là, il y aura un travail à faire. Peut-être que Missak Manouchian est figurant, mousquetaire, au troisième rang dans un film Albatros de ces années. Et moi, dans l'imaginaire qui m'avait été transmis sur Manouchian, j'avais l'impression que de tout temps, ça avait été un militant communiste. Bon, c'est l'archétype du guérillero communiste comme ça. Pour moi, il était né dans une famille communiste, pratiquement avec l'étoile rouge dans une main et la carte avec les timbres à jour dans l'autre main. Et là, en travaillant sur ces archives, je m'aperçois que non. Manouchian devient communiste à un moment extrêmement précis et qui est en résonance avec ce que je viens de dire, c'est 34, février 34, tentative de prise de pouvoir par l'extrême droite à Paris. Et à ce moment-là, ce jour-là, Missak Manouchian prend conscience de la fragilité de sa position, c'est-à-dire que il habite un pays, et ce pays, c'est la langue française, et là, déjà le Portugal, déjà l'Italie, déjà l'Allemagne sont entre les mains de gens qui ont aboli, qui ont changé la langue, qui l'ont transfusée, qui en ont fait une langue de l'ordre, du commandement et du meurtre. Et il sait que c'est l'avenir qui se dessine pour la France et qu'il doit absolument changer de vie et que sa vie maintenant, c'est pas de produire de la poésie, mais de sauver la poésie. Et à partir de 1934, il s'engage politiquement. Et la prise de conscience politique de Missak Manouchian, c'est février 34. Et il s'engage en politique dans un groupe qui s'appelle le HOG, qui est le comité de secours à l'Arménie soviétique. Et donc là, cette organisation, c'est une organisation satellite du Parti communiste français et qui regroupe énormément d'Arméniens progressistes. Et il y a toute une partie de la communauté arménienne qui est sur des positions exactement contraires. Il y a vraiment des luttes, il y a même des morts dans la région lyonnaise et tout et tout. Il y a des affrontements. Donc ils choisissent cet espace-là, l'espace de communiste. Et il va très rapidement avec sa maîtrise de la langue, le côté sportif, c'est véritablement un personnage qui impressionne, qui a vraiment une force physique comme ça. Et puis cette maîtrise de la langue, pas simplement la maîtrise de la langue, et aussi de la formation des phrases, de toute une série de choses comme ça. Très rapidement, il va être remarqué et il va devenir secrétaire général de cette organisation. Et c'est là que les choses se font. Donc là, on a tous ces éléments-là par les archives. C'est que il y a quelqu'un qui est une sorte de secrétaire qui travaille pour lui, qui s'appelle Méliné Assadourian. Et c'est là que se fait la rencontre dans cette organisation communiste. Or Méliné et sa sœur Armène sont aussi des orphelines, et c'est des orphelines qui arrivent de Salonique et qui arrivent en France et qui sont dans une institution religieuse arménienne dans la ville du Rincy, aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Et toutes deux vont fuir la discipline. Donc c'est des personnages extrêmement indépendants. Et donc, Méliné va venir habiter à Paris, je vous dirai où, et rencontre Missak. Et il y a une idylle qui se déclare, mais surtout du côté de Méliné. Et comment la rencontre amoureuse est extrêmement extrêmement simple, c'est qu'un jour Méliné, en déjeunant avec Missak, lui demande si s'il est marié. Il dit non. S'il a quelqu'un dans sa vie, et comment il lui dit oui, il y a quelqu'un dans ma vie. Et comme faut aller jusqu'au bout de la mufleurie, il lui dit est-ce que tu veux voir sa photo? Et Méliné fait la tête et il sort de sa poche un petit miroir de courtoisie. Et elle prend le miroir et se voit. On le fait une fois, là, une fois. On ne peut plus le recommencer, ça. Et comment? Et là, Méliné va l'emmener où elle habite. Et elle habite dans un endroit, de Paris, vers la rue Lafayette. Et elle habite chez les Aznavourians. Et donc, il se retrouve dans une famille de fous furieux, c'est-à-dire le père de Charles Aznavour, qui est maître d'hôtel dans des cabarets arméniens, qui est un buveur extraordinaire, un conteur, quelqu'un qui connaît des milliers de vers de poésie arménienne. Et on a des photos de la famille Aznavour avec Missak Manouchian, qui sont en train de jouer de la musique aux luttes et tout, avec des sourires extraordinaires et tout. Et donc là, Méliné, elle est partie de l'institution du Raincy, elle a regardé les petites annonces et tout, et elle a vu qu'il y avait une famille arménienne qui soulouait une piole, et elle est arrivée et elle est tombée là. Et donc Missak va se retrouver à être l'oncle de Charles Aznavour et puis de sa sœur Aïda. Et on a les témoignages des premiers radio-crochets que fait Charles Aznavour dans le quartier Pigalle. Ils sont emmenés par Missak et Méliné. Le premier prix qu'il a dans un cabaret de Pigalle, c'est avec Missak et Méliné. Et dans des interviews, alors il revient un petit peu, il en reparle aujourd'hui, Charles Aznavour, mais dans les années 70, on a pas mal d'interviews de Charles Aznavour qui racontent ça, qui le dit, que son père ensuite était pas directement dans les combattants, mais il était dans ce qu'on appelle la mouvance du groupe Manouchian. Il a fait des actions de résistance considérables. Et il dit, et c'est Missak Manouchian qui m'a appris à jouer aux échecs. Et quand il y a un défi dans ma vie, quand la première fois que j'ai chanté à New York, dans ma loge, j'étais seul, je jouais aux échecs et je jouais pas contre, mais avec Missak. Donc on a des choses comme ça extrêmement belles, quoi, qui sont posées là et qui étaient oubliées, qui étaient recouvertes par le temps. Quand il est Et tout ça bouleverse complètement l'idée et l'image que j'ai de Missak Manouchian et de le guerriero, quoi. D'un seul coup, il y a tout autre chose qui se joue avec ce personnage, et ce personnage extrêmement singulier. Et il va suivre les cours de l'Université populaire, qui a été fondée par Barbus dans les années 30. Et l'Université populaire, c'est quelque chose qui est fait conjointement par le Parti communiste et la CGT. Ça a lieu dans un bâtiment très curieux qui est à l'endroit où aujourd'hui il y a le siège du Parti communiste français, place du Colonel Fabien, rue Mathurin-Moreau. Et là, il y avait des terrains qui appartenaient aux organisations ouvrières. Et en 1925, il y a eu une exposition des arts décoratifs où il y avait un pavillon de l'URSS qui était le pavillon futuriste. Et ça a été donné à la CGT, le CGTU de l'époque. Et la CGT l'a reconstruit et l'a remis à cet endroit-là. Et il y avait ce pavillon extraordinaire des futuristes qui sont tous passés par le goulag. Et cet endroit a servi, par exemple, en 1931, quand il y avait l'exposition coloniale, Aragon, énormément avec Pierre Unique, avec tout un tas avec Paul Éluard et tout, ils ont fait une contre-exposition coloniale, où ils ont exposé des œuvres d'art océaniennes, amérindiennes et tout, pour répondre à l'injure de l'exposition coloniale. Et cette exposition qui était faite avec la CGTU, il y a eu 5000 visiteurs contre 7 millions à l'exposition coloniale, mais elle a existé là dans ce pavillon des arts décoratifs. Et ce pavillon des arts décoratifs abritait donc en 35, 36, 37, l'Université populaire où Missak Manouchian va suivre des cours. Et les cours... Il y a des cours de philosophie donnés par Politzer. Il y a Paul Nizan qui donne quelques cours à cet endroit-là. Il y a un linguiste qui s'appelle Marcel Cohen, Il y a quelqu'un qui fait tout un tas de cours sur la sexualité. Enfin, c'est hallucinant quand on regarde tout ce qui jouait là. Et puis, il y a d'autres choses. On apprend à fabriquer des tracts. On apprend à être orateur. On apprend aussi des choses qui vont servir pendant la résistance, à se servir d'appareils radio pour envoyer des messages. Et donc, il y a cette université populaire dans laquelle, comment va passer Missak Manouchian. Puis il y a le cinéma qui est là, donc qui prend une très très grande importance. En 1939, période oubliée, en 1939, déclaration de la guerre, comme des dizaines de milliers d'étrangers qui vivent sur le sol français, Missak Manouchian va au bureau pour s'enrôler dans l'armée française. Et donc là, il y a beaucoup d'Arméniens qui font ça, et il y a le fascisme est aux portes, on est là, avec quelque chose qui alerte, c'est que Missak Manouchian est membre du Parti communiste. Il y a eu le pacte germano-soviétique quelques mois auparavant. Et donc, il y a une alliance entre Hitler et Staline, et pourtant, il est là pour combattre le fascisme. Et ça, c'est un point extrêmement, extrêmement important, c'est-à-dire l'ennemi numéro un, c'est le fascisme. Et ça, c'est un fil, j'irai pas rouge, dans la vie de Missak Manouchian, c'est ça. C'est la première chose qu'il y a en ligne de mire, c'est le fascisme. Il va se retrouver instructeur à côté de Rennes. Instructeur, c'est un très bon sportif, et donc il va entraîner les recrues françaises sur le plan sportif avant qu'ils aillent combattre les armées nazies. Et il y a son copain, son meilleur ami, qui s'appelle Sama, qui est un grand poète arménien, et avec qui il continue à travailler sur des revues poétiques, malgré le pacte germano-soviétique. Et Sama, qui est totalement opposé au pacte germano-soviétique, va mourir dans les premiers combats en même temps que Paul Nizan, qui avait les mêmes options sur ce pacte. Et Missak Manouchian, parce que là, j'ai pas abordé la résistance, hein, et pourtant, c'est pour Missak Manouchian, c'est la résistance. Et pour moi, c'est ça qui est le personnage qui est sous ce qu'on nous a simplement dit, on nous l'a résumé à quelque chose, et il y a un iceberg sous ça. Et Missak Manouchian va faire partie de manière très clandestine d'une organisation qui est une organisation du Parti communiste qui organise les immigrés, donc après la rupture du pacte germano-soviétique, et il fait partie des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés. Et ça, depuis les années 30, aussi bien à la CGT qu'au Parti communiste, les immigrés étaient organisés par groupes de langues, avec des publications de journaux dans les langues maternelles et ainsi de suite. Et donc lui, il va faire partie des FTP-MOI. Et comment ? À un moment, le principal groupe qui est sur Paris, il va y avoir toute une série de dissensions avec celui qui, à ce moment-là, en assure la direction, qui est un Roumain qui s'appelle Boris Olban, un Roumain, parce que à l'intérieur du groupe Manouchian, hein, il y avait des Roms dans le groupe Manouchian. Et le principal responsable, Boris Olban, s'oppose à des directives où, au lieu de travailler, de faire des attaques par groupe restreint de 4-5 personnes, la direction du Parti communiste pense qu'il faut des détachements, il faut passer un rythme supérieur. Il s'oppose à ça et il est remplacé par Missak Manouchian. Et Missak Manouchian va prendre la direction des FTP-MOI, des combattants, sur Paris au printemps 1943, et à ce moment-là, il va y avoir des actions d'éclat. Alors, la première action que va faire Missak Manouchian, il est avec des gens que j'ai rencontrés, quelqu'un qui a disparu depuis, qui était Henri Karayan, et puis Arsène Tchakarian, qui vit toujours. Ils sont tous les trois, et Missak Manouchian doit être en repli, en protection. Et il décide, comme il est le responsable, de prendre la grenade qui doit être jetée contre un détachement de feldgendarmes à Levallois-Perret. Et il va jeter une grenade où il y aura plusieurs morts comme ça. Et il va être rétrogradé pour avoir outrepassé les droits comme ça. Donc ça aussi, un trait de caractère. Et puis il va organiser un des principaux coups de main de la résistance communiste sur Paris, c'est l'exécution du responsable de la déportation STO pour toute l'Europe, qui est Julius Ritter. Et Julius Ritter va être tué dans le 16e arrondissement par un groupe de FTP dirigé par Missak Manouchian. Julius Ritter est un ami intime de Hitler, et il y aura une journée de deuil sur tout l'espace du Reich pour la mort de Julius Ritter, et des ordres directs d'Adolf Hitler pour arrêter les responsables. Donc une partie des moyens qui vont être mis pour démanteler les FTP Moy viennent aussi de la cible. Et aussi, parmi les gens qui ont exécuté Julius Ritter, ça se sait assez peu, il y avait un jeune garçon, Maurice Reymann, mais il y en avait Marcel Reymann, pardon, et il y avait quelqu'un d'autre qui était à côté, qui s'appelait Leo Kneller, et qui était un antifasciste allemand qui faisait partie du groupe Manouchian. Pour aller très vite, parce que j'outrepasse tout là, dans les archives, je suis tombé, ça a été un moment d'émotion considérable, je suis tombé sur la dernière lettre de Missak Manouchian, celle qu'on connaît, hein, qui a donné le poème d'Aragon. Poème d'Aragon et dernière lettre, qui a été, cette dernière lettre a été tronquée jusque dans les années 72-73, il manquait une phrase. Je pardonne à tous, sauf à celui qui nous a trahis, à ceux qui nous ont vendus. Cette phrase avait disparu complètement et elle n'a été restituée que dans les années 70. Aujourd'hui, on a l'explication de ça. Et le fait de censurer ces mots, ça a donné prise à toute une série d'hypothèses, toutes plus folles les unes que les autres, alors que la réalité, c'était une censure d'une bêtise totale, mais j'en reparlerai juste après, j'essaierai d'avoir le temps. Et il y a cette dernière lettre, et quand je la repose, il y a une avant-dernière lettre. Et l'avant-dernière lettre de Missak Manouchian, elle n'est pas adressée à Méliné, elle est adressée à sa sœur, Armen Assadourian. Et je la lis. Personne ne l'avait lu avant moi, à part la famille. Et dans cette lettre, qui est reproduite sans note de bas de page dans le roman, Missak Manouchian, qui était d'une certaine manière, parce que Armen avait divorcé, elle avait deux enfants, dont le père de Katia. Hein, et Missak servait un petit peu de père de substitution aux deux gamins. Et donc il s'adresse à Armen et il s'adresse aux enfants. Et curieusement, il laisse une phrase, il dit « Armen, je te confie la mémoire de mon compagnon Manoukian, avec un K, Manoukian, qui va mourir à mes côtés. » Et quand je lis ça, je me dis « Mais pourquoi ?» Alors que dans aucun document, il ne parle de ses autres compagnons. D'un seul coup, il dit « Mais je te confie la mémoire. » Donc s'il confie la mémoire de quelqu'un, c'est que cette mémoire est en danger. L'homme va mourir, mais sa mémoire est en danger. Sa postérité est en danger. Qu'est-ce qui pèse sur la mémoire de Manoukian ? Et j'ai commencé à travailler sur cette question. Et là, je suis allé voir, mais c'est des coups de hasard romanesques, mais c'est ce qui m'arrive tout le temps quand j'écris. Je suis allé voir quelqu'un qui dirige actuellement, alors qui dirige le dictionnaire bibliographique du mouvement ouvrier, qui est un instrument extraordinaire avec des dizaines de milliers de biographies de gens oubliés. Dans les gens qui faisaient des cours à l'école, l'université populaire du Parti communiste, il y avait Jean Métron. Il faisait des cours sur l'histoire. Et il y a quelqu'un qui a fait deux cours et qui s'est fait virer, et tout parce que ça correspond pas. C'était Robert Jospin. Donc on l'a aussi, on a ça. Donc c'est pour la petite histoire. C'était assez marrant de tomber là-dessus, quoi. Et je vais voir le directeur actuel du Métron, qui est Claude Pentier. Et donc je lui dis, ben voilà, je travaille là-dessus et tout. Est-ce que dans le Métron, puis dans, ils ont des informations absolument considérables. Je dis, je suis à la recherche d'un type qui était dans le groupe Manouchian qui s'appelle Manoukian. Il me regarde, il me dit, oui, Daftian. Et là, il va me donner toute une série d'informations à partir de cette lettre, et il me ressort toute une série de choses, et il me dit, ben, c'est très simple, mon père, dans les années 30, a créé le Parti communiste internationaliste. Donc son père est créateur d'un parti trotskiste, extrêmement réduit, comme ça, dans les années 30. Il dit, et il a créé ça avec un électricien de la ville de Paris, un type qui est mort, qui s'appelait Roland Filiatre. Et Roland Filiatre, c'était quelqu'un qui faisait partie du mouvement trotskiste international comme ça, et qui a récupéré quelqu'un qu'on a retrouvé découpé en petits morceaux dans la Seine, découpé en morceaux par la GPU, qui était Rudolf Clemens, qui était quelqu'un qui travaillait avec Trotsky. Et puis il dit, à un moment, il y a quelqu'un qui était un héros de la conquête de l'Arménie soviétique en 21, qui était devenu un dissident anti-stalinien de la gauche oppositionnelle, qui avait été condamné à mort par Staline, mis au goulag, qui a réussi à s'évader, qui est passé à pied par l'Inde et ainsi de suite, qui a mis 3 ans et qui est arrivé à Paris et qui est arrivé chez l'électricien de la ville de Paris, Roland Filiatre. Et il s'appelle Daftian et il faisait partie du groupe Manouchian sous le nom de Manoukian. Et en même temps, il était correspondant de la presse trotskiste dans les années 30 sous le nom de Tarov. À partir de là, j'ai fait un travail, j'ai tout récupéré. Et on arrive avec le groupe Manouchian. Il y a quelqu'un qui s'appelle Missak Manouchian, qui nous apparaît comme le communiste stalinien, guérillero et ainsi de suite, qui avait quelqu'un auprès de lui dont il savait exactement le parcours. Et à l'intérieur du principal groupe de résistance français, celui que les nazis ont appelé l'affiche rouge, il y avait un trotskiste de première importance. Et ce Daftian, c'est le seul qui, lors d'une action, a été blessé par un de ses propres camarades. Et donc une balle perdue lors d'une action, on n'a pas l'explication, peut-être que c'était véritablement une balle perdue, et il a été récupéré par la sœur de Méliné, et pendant 3 mois, il a été soigné rue Homer, où habitait Armen Assadourian. Et donc là, d'un seul coup, on a cette seconde lettre où il y a ce secret historique et tout le monde était passé à côté de ce secret historique et d'un seul coup qui ouvre complètement un champ extraordinaire sur Missak Manouchian, ce qui est dans la droite ligne de ce qu'il est, c'est-à-dire quand il s'engage dans l'armée française en 1939, c'est-à-dire contre le fascisme, on ne fait pas de différence. On peut avoir des différences après, mais là, l'urgence, c'est ce combat-là. Et on met personne de côté. Je vais aller très très vite parce que il y a eu après, il y a eu une thèse sur la trahison du groupe Manouchian. Hein. Il y a eu un film de Moscou qui a été fait, qui est un très bon film. Et à l'époque, les archives policières n'étaient pas ouvertes. Et donc, il est parti d'une hypothèse comme quoi le Parti communiste avait abandonné le groupe Manouchian. Et les archives aujourd'hui, il y a un historien qui a fait un travail millimétrique sur les archives policières qui s'appelle Denis Péchanski et qui a élucidé tout le mystère. C'est-à-dire, l'assassinat de Ritter a compté énormément. Les brigades spéciales françaises ont mis des dizaines et dizaines d'inspecteurs sur les traces du groupe Manouchian et ils ont eu une chance extraordinaire, la police. C'est qu'à un moment, il y a un groupe qui était le groupe où étaient prélevés les meilleurs éléments pour les guérilleros, et c'était un groupe qui avait été formé par un tout jeune homme qui s'appelait Henri Krasucki. Et Henri Krasucki, il avait un groupe qui était les jeunes juifs communistes de Paris, avec un point fort qui était rue des immeubles industriels, 300 à 350 personnes qui étaient là, dont son copain d'enfance, Marcel Reymann, qui était dans le groupe Manouchian. C'était le seul, il y en avait un qui était guérilleros, qui était le pote qui avait été prélevé et qui était ailleurs. Et les policiers vont bénéficier de la trahison d'une jeune femme. D'une jeune femme qui était très très proche d'Henri Krasucki. Et Krasucki l'emmenait souvent à l'opéra, parce que Krasucki était totalement fondu d'opéra. Il les connaissait tous, il ne pouvait pas passer une journée sans se confronter à la musique, à la voix, et ainsi de suite. Et une partie des réunions de son groupe se passait au poulailler. Donc ils allaient écouter un opéra, et puis pendant l'entracte, il y avait des consignes et tout et tout. Donc c'est un aspect assez inconnu aussi de Henri Krasucki, qu'on voit souvent comme le Krabzucki en train de boire des kills de rouge, et ainsi de suite. C'est ce que faisait TF1. Et l'animateur qui le présentait comme ça s'appelait Jean Roucas, et on sait où est Jean Roucas aujourd'hui. Et il y a cette jeune femme qui s'appelait Lucienne Goldfarb, et Lucienne Goldfarb a craqué pour une histoire. Elle avait des faux billets Et elle s'est servie de faux billets pour faire du marché noir. Et elle est tombée entre les mains des brigades spéciales qui ont remonté le fil de ces billets. Et ces billets étaient tellement bien faits qu'ils ne pouvaient pas être simplement une petite organisation. Ça venait, c'était obligatoire des billets de la résistance. Et cette jeune femme a complètement craqué, a été prise en main par les brigades spéciales. Elle a commencé à parler et il y a eu une arrestation massive dans le groupe Krasuki, dont Henri Krasuki, qui est resté pendant plusieurs semaines à être torturé avant d'être envoyé à Auschwitz en compagnie de sa mère. Et comment ? Dans la rafle, il y a une seule personne qu'ils n'arrivent pas à voir, c'est Marcel Reymann. Ils savent qu'il y a un type qui fréquente, qui est champion de natation, il fréquente les piscines, trois piscines, ils savent pas, et ils vont mettre des inspecteurs devant les piscines avec le portrait parlé de Marcel Reymann. Ça se passe au mois de mars. Avril, Marcel Reymann ne vient pas à la piscine. Mai, il ne vient pas. Juin, il ne vient pas. Le quatrième mois, en juillet, il fait chaud. Il peut pas résister, il va à la piscine. Et les flics sont toujours là. C'est l'infinie patience du système policier. Et ça, quand on parle de trahison, on peut pas imaginer que c'est quatre mois comme ça, dans trois piscines, avec des gens qui sont là pendant tous les heures d'ouverture. C'est ça, alors, la puissance policière. Et là, ils voient Marcel Reymann, ils ne l'arrêtent pas, et ils vont suivre Marcel Reymann, et ils vont détecter absolument tout le groupe Manouchian. Ils vont tous les avoir. Ils ont pas les noms. Ils leur donnent les noms des bouches de métro où ils les voient pour la première fois, des plaques de rue, et ainsi de suite. Et donc là, ils vont complètement faire la rafle du groupe Manouchian en novembre 1943. Juste comme ça, parce que il y a quelqu'un dans la salle qui est Daniel Pseny qui a fait un film sur cette jeune femme. Un téléfilm sur cette jeune femme, Lucienne Goldfarb, parce qu'elle a eu une destinée. Elle est devenue prostituée à la fin de la guerre. Et par la suite, les services policiers lui ont confié la maîtrise d'un claque, d'un bordel de très haute tenue, qui était sonorisé, qui était filmé, et où on pouvait avoir les ébats des députés, des sénateurs, des ambassadeurs, des hommes politiques étrangers qui venaient en goguette à Paris. Et à partir de là, elle a eu un pouvoir extraordinaire. Elle a été complètement dans une sorte de clandestinité dorée, comme ça, pendant toute la Quatrième République. Et elle est réapparue. Alors, en 1947, Henri Krasuki a formé un commando pour l'exécuter. Et la direction du Parti communiste de l'époque lui a dit de se calmer. Donc, en 1974, elle est réapparue. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelait Laroukine, qui était son pseudo d'après-guerre. Elle s'appelait Laroukine. Et c'est un livre qui avait été fait, un livre d'entretien avec Alphonse Boudard. Et c'est un livre absolument immonde. Et Krasuki est allé voir l'éditeur, qui était André Balland. André Balland était un ancien FTP, franc-tireur et partisan. Il ignorait totalement, il a fait retirer le livre de la circulation. C'est un livre immonde, moi j'en ai acheté un sur Internet pour pouvoir le lire, savoir ce qu'il en était. Elle avait été initiée à l'opéra par Henri Krasuki. Et elle a voué tout l'argent qu'elle avait à l'opéra. Elle a fondé des associations où elle voyageait à travers le monde pour écouter toutes les plus grandes voix comme ça. Et puis on l'a vu réapparaître. Moi, je l'ai vu sur les écrans dans les années 2000, tout simplement parce que son association d'opéra était dirigée par Madame Devier-Joncourt, la putain de la République. Et Lucienne Goldfarb a été un des témoins de Monsieur Roland Dumas lors de l'affaire Elf. Et donc, il y a aussi cette... Alors moi, j'en parle pas dans mon roman, parce que mon roman, c'est 1955, janvier, février, mars 55 et tout. Mais c'est ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, voilà, c'est cette espèce de permanence, cette permanence de l'histoire. Il y aura encore plein de choses. Par exemple, sur Henri Krasuki, c'est un personnage absolument incroyable, incroyable, incroyable. Il faudrait une heure de plus pour en parler. Mais sur Henri Krasuki, il y avait très, très peu de choses. Il a toujours refusé d'écrire ses mémoires et ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui récemment a fait une biographie de lui au Cherche Midi. Et il y a quelqu'un qui a fait une biographie sauvage de Henri Krasuki au début des années 80, qui est d'un type qui s'appelle Tandler. Type d'extrême droite qui a bénéficié de toute l'ouverture des archives à un moment où c'était interdit à tous les chercheurs. Et dans son texte que j'ai lu, il porte une ombre absolument incroyable sur Henri Krasucki. Il dit Krasucki a été arrêté, il était majeur, il n'était pas majeur, il avait plus de 18 ans. Il avait toute une série de listes de pseudos, il n'a jamais donné les noms, même sous la torture. Mais il avait aussi des armes. Dans le dossier de Krasucki, il y a des armes. Et s'il y avait des armes, grenades et ainsi de suite, il était obligatoirement fusillé. Pourquoi n'a-t-il pas été fusillé et pourquoi a-t-il simplement été envoyé à Auschwitz ? C'est ce qui est écrit dans le livre, à la table ronde. Et comment ? C'est une question. C'est une question quand même. Et il n'y avait pas de réponse. Moi, j'ai pu avoir une dérogation pour avoir accès à tous les dossiers des membres du groupe Manouchian, des brigades spéciales, de tous les policiers tortionnaires qui ont été jugés après-guerre. Donc, j'ai eu les mémoires en défense, j'ai eu toute une série de choses, des gens qui ont arrêté, torturé, Krasucki, Manouchian, Rehman, et ainsi de suite. Donc, j'ai eu accès à ça. Et j'ai eu accès à tous les dossiers Krasucki. Le dossier de Henri Krasucki, il y a les listes, comme ça, il y a absolument tout, il n'y a pas d'armes. Sauf qu'il y a un deuxième dossier Krasucki, c'est sa mère. C'est sa mère qui avait l'arsenal. Et ce temps de l'air, que je ne vais pas qualifier comme ça, en 1980, pour une basse opération politique, il a pris les deux dossiers, les a mis ensemble, pour pouvoir faire peser le doute sur ce personnage. Et donc, il a fallu attendre 2009 pour élucider cette rumeur absolument meurtrière sur quelqu'un qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui a été totalement diffamé par les télévisions. Et juste pour finir, pour moi, quand je lis, et je vous invite à lire, il m'est absolument impossible de la lire sans fondre en larmes, la dernière lettre de Misak Manouchian, lisez ça. On me présentait, moi, Misak Manouchian, comme un martyr, comme quelqu'un qui nous avait offert sa mort en bouclier. Lisez. Dedans, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle à sa femme et lui redonne la liberté. « Je te dis de vivre et d'avoir un enfant. » Il lui dit ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Il parle, il dit qu'il y a du soleil. Il parle de l'air, il parle des fleurs. Il ne cesse de parler de la vie. Le message qu'envoie Manouchian, c'est pas le message de sa mort. C'est-à-dire qu'il la met hors champ. C'est véritablement ce message-là, le message de la poésie. Et là, d'une certaine manière, la statue qu'on lui a édifiée lui fait de l'ombre. Voilà. Merci.